cube.radio.
Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
Cube Radio.
Alors Vincent, dans les autres nouvelles, on dit les médecins qui continuent à encourager les gens à malgré tout à aller aux urgences, c'est-à-dire si vous avez une situation de santé, vous ne pouvez pas la traîner. Et c'est entre autres vrai pour les urgences pédiatriques.
Oui, c'est quand même inquiétant comme sortie, là, parce que depuis le début du couvre-feu, là, on voit des moins d'enfants dans les urgences en soirée, en fait pendant les heures du couvre-feu, de sorte que selon plusieurs médecins, il y a des cas d'enfants dont les fractures, dislocations, lacérations ont trop tardé parce que des parents croient qu'ils ont peur de se faire arrêter. Alors, il y a un rappel aujourd'hui de plusieurs médecins pédiatriques, entre autres de l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital de Montréal pour enfants, qui font un rappel aux parents. Vous avez le droit, là. Vous avez le droit de prendre la voiture à 9h le soir avec votre enfant qui s'est cassé le bras. Si vous faites arrêter, vous allez mentionner ça aux policiers et il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, au retour de l'urgence, vous allez avoir un papier du médecin, ou du moins de l'hôpital, qui confirme que vous êtes passé par la salle d'urgence. Donc ça, c'est quand même la base. C'est quand même important que tout le monde comprenne ça.
Oui, absolument. Non, mais c'est bien quand même qu'il le précise. Ça démontre en même temps une volonté très massive des gens de respecter que le couvre-feu. Tu sais, quand on dit le couvre-feu, ça marche.
Oui, mais ça montre qu'il y a quand même une incompréhension.
Tu connais certains points des
acceptables. Non, mais si le feu pogne chez vous, tu vas rester en dedans parce que c'est le couvre-feu.
Non.
Il y a quand même une logique à avoir. Ton enfant se casse le bras.
Ouais, mais
c'est là que le bras.
Est-ce que c'est à ce point-là que des causes si graves, les gens craignaient que oui?
Le chef des urgences dit avoir vu ça.
Moi, une des craintes à l'inverse de ça, une des craintes que j'ai, je sais pas, est-ce que tu as vu l'histoire de l'UQAM? Il y a entre autres Jean-Denis Garon, là, que je reçois à LCN de temps en temps, là, sur chroniqueur économique au journal. C'est un prof à l'UQAM. Tous les professeurs de l'UQAM, semble-t-il, ont reçu un papier rempli de l'UQAM pour leur dire qu'ils peuvent voyager à n'importe quelle heure.
Ouais, c'est pas supposé être seul point, là.
Mais lui, Jean-Denis, il dit exemple. Il l'a dit sur Twitter aujourd'hui. Ouais. Il dit, regarde, moi, là.
Un espèce de permis à tout heure.
Ouais, permis de circuler pour son travail.
Parce que moi, admettons, j'ai ça, là, pour Salut Bonjour, le week-end. Moi, mon papier, là, donc, de TVA.
Et toi, tu rentres à quoi, 3h du matin?
Même si je suis un peu déçu en le voyant, ça m'autorise entre 3h et 5h. Le samedi et le dimanche. Donc, je peux pas, moi, partir le soir. Non, mais là, j'ai mon papier.
Parce que là, ton employeur TVA a fait les choses rigoureusement. Mais là,
oui.
L'UQAM, semble-t-il, donne une espèce de mais à tous, là. Donc, lui, il dit, moi, je donne même pas de cours cet hiver. J'ai même pas de cours à donner qui exige mon déplacement. Puis j'ai le papier. Je pourrais sortir le soir.
Ouais, il y a une incompréhension aussi.
Puis là, l'UQAM, la question se pose pour les employés de bureau. La question se pose pour les chargés de cours, etc. Parlant de ça aujourd'hui, quelqu'un m'envoie un dossier que semble-t-il qu'il y a au moins un cégep. Je me méfie, là. Des fois, il se dit des affaires, les gens élargissent, mais un cégep où on a laissé entendre aux jeunes qu'on allait le donner aussi tous azimuts. On a dit aux jeunes, là, des cours le soir, des laboratoires le soir, tous les étudiants vont avoir le papier. J'espère qu'on se trompe, mais ça m'a juste amené à une réflexion, à dire, OK, n'as-tu bien des employeurs? Parce que l'UQAM, là, c'est quand même pas une binerie, là. C'est quand même c'est un milieu universitaire.
Ouais, puis on est dans l'épicentre, là.
Ah ouais, mais t'es en plein cœur de Montréal, où il y a des cas comme c'est pas possible. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'employeurs ou d'organisations qui vont jouer à ça? Parce que dans le fond, l'explication, c'est de dire, ben là, on commencera pas, là, à vérifier, là. Mettons les profs de l'UQAM, là. Est-ce que chaque prof, c'est quoi les heures de ses cours, puis tout ça? Ben oui, il faudrait que tu le fasses.
C'est si compliqué, là, de savoir va travailler. Là.
Ben on va simplifier la vie. Là. On va envoyer tous nos employés, on va leur envoyer un papier comme quoi ils peuvent circuler à n'importe quelle heure.
Sauf que si le policier t'arrête et décide d'investiguer un peu, t'auras beau avoir ton papier. Ton papier ne te protège pas parce que j'ai vu des cas de gens qui se sont fait arrêter et le policier, ils ont montré leur papier puis il y avait un paquet de questions qui venaient avec quand même. Là, en disant, ben, j'ai mon papier. Puis ça dit, mais ton papier, là,
t'as pas imprimé chez vous. Là, vas-tu vraiment travailler?
Ben oui, c'est pas ton certificat de naissance, là. Je veux dire, c'est quand même un papier fait par l'employeur avec des critères du moment, là. Ben, le policier, je pense, peut quand même fouiller un peu. Mais là, bon. Surtout s'il y a des grosses entreprises comme ça qui le font, peut-être que les policiers vont commencer à le savoir aussi que certains papiers un peu bancals circulent.
Vincent, on a fait une entrevue cette semaine, avant hier, je pense, avec un avocat qui entamait des démarches contre DoorDash, Uber Eats, Skype the Dishes, les compagnies qui livrent des repas. Et les entreprises en question avaient été aussi interpellées par le gouvernement qui avait donné un peu la rapue aux restaurateurs concernant le pourcentage trop grand, le 30% qu'ils se prennent sur les factures des restaurants. On a une réponse des géants de la livraison, là.
Ben, en fait, il semble pas y avoir d'intérêt, du moins pour l'instant, chez Uber Eats et DoorDash qui refuseraient là, de se plier à cette demande du gouvernement. En fait, faut dire, André Lamontagne, au ministère de l'Agriculture, a fait savoir qu'il avait contacté les trois plus importants, là, donc Skip the Dishes, DoorDash et Uber Eats, pour leur demander de baisser leur tarif, soit autour de 20% de la facture et 15% pour des livraisons. Ce qui est quand même pas mal. En fait, se coller un peu à ce qui se fait
en Colombie-Britannique et en Ontario, la semaine avant Noël ou à mi-décembre, mettons, ils ont coupé ça à 15%. Point. Bon. Puis il y a personne,
qui a fait faillite.
T'as pas vu que DoorDash avait quitté Toronto ou que Uber Eats avait quitté Vancouver.
Et à mon avis, ils sont rentables quand même. Donc effectivement, ça montre que c'est possible. Mais ce qu'on apprend du cabinet du ministre André Lamontagne, c'est que seulement Skip the Dishes, entreprise de Winnipeg, qui aurait accepté de se plier à cette demande-là. Faut dire par contre que c'est pas un si grand gain parce que l'entreprise chargeait déjà 20%.
C'était déjà les moins chérants, là, c'est ça.
Aux restaurateurs qui avaient leur salle à manger fermée. Puis c'est fermé présentement partout. Donc, c'est un moins grand gain que si Uber Eats et DoorDash avaient pu accepter.
Mais ça, faudrait le publiciser. Il faudrait que tout le monde, au moins que les gens, parce que souvent, là, les restaurants font affaire avec plusieurs différents, mais que le client savent. Tu sais, si le client le sait que si je fais affaire avec Uber Eats, je donne 30%
Je vais encourager davantage Skip the Dishes.
À cause de ça, ben oui, mais parce que tu le sais.
Effectivement. Faut que ça se sache.
Parce que toi, tu payes le même 30$ là, pour tes brochettes. Là. C'est juste qu'il y en a un pourcentage plus grand qui reste dans les poches du restaurateur plutôt que de retourner au...
Tout à fait. D'ailleurs, l'opposition, le Parti québécois, Québec solidaire, avait dénoncé cette approche-là du gouvernement du Québec, d'un peu de leur demander sur une question de bonne foi. C'est peut-être la première étape entre autres, Mégane Perry-Melançon là, du Parti québécois qui disait que c'était illusoire là, de penser qu'Uber Eats allait tout simplement dire « ben parfait, on va couper nos frais de moitié ». Alors, est-ce qu'il faudra aller plus loin? Peut-être, parce qu'effectivement, Mario, si d'autres provinces le font et que d'autres d'importantes villes aux États-Unis ont passé à 15% puis tout se passe bien, il n'y a pas de raison de ne pas y aller.
Les arrestations se continuent après l'insurrection contre le Capitole. C'est assez drôle d'ailleurs dans les médias américains parce que les vandales sont comme devenus des personnages. L'homme avec le chandail de Auschwitz, l'homme avec le drapeau des drapeaux confédérés. Ils sont tous des personnages avec ce qu'ils portaient dans leurs mains.
Oui, et il y a eu donc des arrestations supplémentaires dans les dernières heures. Ça a été confirmé entre autres par le FBI. Arrestation entre autres de celui qui avait un drapeau confédéré qui est entré.
On l'a vu les retours. Là, ouais.
On l'a vu énormément. Donc cet homme-là a été arrêté. Et également arrestation de celui qui serait derrière cette attaque auprès d'un policier, l'attaque mortelle avec un extincteur. Alors, cette personne-là aurait été arrêtée également. Dans les informations des dernières heures, on apprend aussi qu'il y aura des forces policières en plus. La police de New York enverra 200 policiers pour la sermentation la semaine prochaine. Également, la garde nationale du Maryland envoie 500 soldats supplémentaires. Alors, un peu à chaque jour, on en ajoute et on en ajoute. Parce qu'à un moment donné, on a déjà plus de 20 000 soldats de la garde nationale armée.
Mais là, il y a fort à croire qu'à Washington, tu vas te retrouver dans une situation ridicule où tout ce qui est manifestant vont aller ailleurs, vont aller manifester dans d'autres capitales des États-Unis ou dans d'autres places. Fait que t'avais pas de sécurité puis des manifestants qui ont tout cassé. Puis là, la sermentation, tu vas avoir 25 000 personnes de sécurité puis tu vas avoir 3 manifestants.
C'est un peu ça, parce que ça va commencer à devenir pratiquement impossible là, d'amasser une grande foule à Washington. D'ailleurs, fait quand même inusité, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump a fait une publication en utilisant, parce qu'il a peut-être oublié, là, se disant vraiment muselé par le fait qu'il a été suspendu de Twitter. Il faut se rappeler, le président des États-Unis a un porte-voix. Là. Il peut s'adresser aux médias, oui. Il peut s'adresser, il y a plein de façons, les communiqués officiels. Et aujourd'hui, Donald Trump a publié un communiqué, donc, officiel de la Maison-Blanche, mais écrit comme un tweet. Là. Aussi long qu'un tweet, vraiment avec le... Alors, il a
le
tout
même
simplement
genre de langage.
Un autre porte-voix. Mais où il se vantait, entre autres, du fait que le nombre de militaires en Afghanistan était à son plus bas depuis 19 ans. Le fait que c'était la même chose en Irak et en Syrie. Donc, se vantait comme ça d'avoir réduit la présence militaire ailleurs au bon dans le monde. Et le fait qu'on a investi le 2,5 en fait, trillions, donc 2500 milliards dans l'armée et qu'il avait acheté de beaux nouveaux équipements. Tous ces équipements faits aux États-Unis. Mais point qui a été marqué par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, c'est de dire Trump se vante qu'il y a moins de troupes à l'extérieur du pays, alors que présentement, il y a 20 000 troupes pour protéger de sa gang dans la capitale du pays.
Et c'est plus, il va y avoir plus de soldats cette semaine pour protéger le Capitole que la somme de tout ce qu'il y avait
en Irak et en Afghanistan.
Additionné.
Donc, on se vante qu'il y a moins de soldats, qu'on a besoin de moins de soldats à l'extérieur parce qu'on a besoin de protéger la capitale. Alors, c'est un peu particulier, mais vraiment, ce sera une ville militarisée qui va accueillir Joe Biden la semaine prochaine.
T'as une nouvelle un peu plus légère, t'en as une sur les aiguilles pour vacciner?
Oui, quand même, une possible bonne nouvelle parce que on sait là avec les vaccins de Pfizer, BioNTech et Moderna, on est capable d'aller chercher une dose de plus là, par fiole, ce qu'on est en train de ce qu'on a découvert. Mais peut-être une possible autre dose qu'on pourrait aller chercher en utilisant, et c'est la santé publique du Royaume-Uni qui a sorti ça aujourd'hui, en utilisant des aiguilles qui ont une parce que il y a toujours une perte par aiguille
dans l'aiguille.
Dans l'aiguille,
il y a une parce que tu pousses dans le cylindre là.
Oui.
Il y a rien qui pousse dans l'aiguille une fois que le cylindre il y a plus d'air dans le cylindre.
Exact, un petit bout de liquide qui se perd là, mais il y a des types d'aiguilles où on perd beaucoup moins de liquide. Et avec en utilisant uniquement ces aiguilles-là, on est capable d'ajouter possiblement une dose.
Rendu à 7 doses dans le fiole. Ben, on est passé de 5 à 6 à 7.
Une hausse de 40% pratiquement des vaccins, vu que le fait que les bon des aiguilles, on n'en manque pas, mais on manque de doses. On pourrait miser sur ces aiguilles-là, qui sont, on appelle les low dead space needles. Alors vraiment des aiguilles qui ont une partie inutilisée qui est plus petite. Puis je voyais un peu comment c'était fait. C'est presque identique, mais avec une zone, alors que normalement, il y a plein de médicaments où ça dérange pas. Dans ce cas-là, c'est plus critique. Alors, on pourrait possiblement améliorer encore le nombre de doses à peu de frais, enfin, en utilisant tout simplement un type différent d'aiguille. Alors, on verra si ça fait le tour du monde, mais en Angleterre, on va cibler ces aiguilles-là à partir de maintenant.